La rencontre spirituelle, aujourd'hui, c'est la fête de Sainte Perpétue, Sainte Félicité. Ça peut surprendre bien des gens que je m'attarde à des saintes qui ont vécu il y a... Oh mon Dieu, 1800 ans, puisqu'elles ont été martyrisées en l'an 203 à Carthage. Mais c'est très, très intéressant, et d'autant plus c'est la journée internationale de la femme demain. Il est bien normal que je parle de deux de ces grandes saintes du début de l'Église, et qui ont enchanté Saint-Augustin, qui ont enchanté quantité d'autres personnages à travers l'Église par le récit de leur martyre, car une partie de ce récit a été rédigée par Sainte Perpétue elle-même. Et je vous en lirai des extraits. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. En l'an 202, l'empereur Septime Sévère avait condamné toute propagande religieuse dans son empire. C'est pas nouveau, la France a fait la même chose et bien d'autres pays. La Russie soviétique et quantité d'autres, la Chine, etc. Et près de Carthage, cinq jeunes chrétiens qui semblent indifférents à cette déclaration de l'empereur Septime Sévère continuent à proclamer, eux, ouvertement leur foi. Et leur courage leur vaut d'être arrêtés et conduits en prison. Parmi eux, il y a deux jeunes gens qui sont des gens qu'on appelle de condition libre. Ce ne sont pas des esclaves. Une jeune femme de l'aristocratie locale, donc, et mes deux esclaves, dont l'une se nomme Félicité et l'autre Perpétue, des esclaves. Oui. Âgées d'environ 22 ans, ces deux jeunes filles ne sont que catéchumènes, elles ne sont pas encore baptisées. Perpétue vient de mettre au monde un petit enfant. Elle est toute jeune mère. Et quant à Félicité, qui est arrivée, elle aussi, au terme d'une grossesse, elle accouche dans la prison même, en présence de son gardien, donc deux jeunes mères. Elles ont une telle soif du martyre, en dépit de leur enfant, qu'elles supplient le Seigneur de leur accorder ce qu'elles considèrent comme une grande grâce. Car elles aiment mieux Dieu et la fidélité à Dieu, à vivre pour s'occuper de ce qu'elles ont de plus précieux, leur enfant. Dieu répond à leurs désirs, chose étrange, et leur sort est décidé. Elles doivent périr dans des jeux qui vont se donner à l'occasion de l'anniversaire de l'empereur César Guetta. Le 7 mars 203, vous pouvez calculer le nombre d'années que ça fait. Près de 1800 ans, dans 5 ans. Et les deux condamnés pénètrent dans l'amphithéâtre de Carthage, donc, en se tenant l'une l'autre par la main. Elles sont enfermées dans deux filets. Elles sont destinées à faire le jeu d'une vache. Une vache enragée, quoi, une vache furieuse. Et puis, elles résistent au traitement sauvage de cette bête effrayante. Elles sont finalement égorgées par un gladiateur maladroit. Alors, c'est tragique, ces récits de martyrs, mais ça nous montre jusqu'à quel point la foi et l'amour de Dieu peut permettre à quelqu'un d'aller... Ça permet à des gens d'aller très, très loin. C'est pour ça qu'il faut lire et admirer, et se dire que devant les petits problèmes, parfois, que nous avons, et qui nous découragent, on devrait peut-être se modeler sur ces grands martyrs. Le texte qui relate le martyre de ces deux saintes, je vous l'ai dit, fait l'admiration de Saint-Augustin, puis a beaucoup contribué à l'essor de leur culte dans les églises d'Afrique, d'abord, puisque Carthage est en Afrique du Nord, et de Rome. Sainte Félicité et Sainte Perpétue sont encore mentionnés aujourd'hui dans la liturgie eucharistique au canon romain. On trouve ça dans le premier canon de la messe. Il y a plusieurs canons, aujourd'hui plusieurs façons de réciter ou de dire la messe. Et dans l'ancienne liturgie, en latin, on les avait, n'est-ce pas, quand on donnait toute la série de saints, là, comme Ioanne, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alexandro, Marcellino, Petro Felicitate, puis Perpetua. Vous vous souvenez en latin de ça? Eh bien, ça existe encore dans la messe de Paul VI, le premier canon. Et alors, par elle, eh bien, Dieu manifeste, on peut dire, toute la force, puis toute l'ardeur hein, qu'il répand dans nos cœurs, si faibles. Mais à la condition de nous abandonner à lui avec confiance, hein, comme elle. Et y a-t-il quelqu'un de plus fragile qu'une femme qui vient de donner vie à un enfant, hein? Et les deux jeunes mères ont triomphé de toute tentation de désespoir et de faiblesse par leur foi inébranlable et leur profonde espérance. Hein? Vous allez voir, Sainte Perpétue exhorter la foule en disant « Demeurez fermes dans la foi, aimez-vous les uns les autres et ne soyez pas ébranlés par nos souffrances. » Eh bien, je trouve qu'à l'occasion de la fête des femmes, c'est une bonne chose de réfléchir avec Sainte Perpétue et Sainte Félicité sur la grandeur de tant de saintes dans l'histoire de l'Église. La préface à ce récit, parce qu'il y a une préface, est sensationnelle. Voici le texte de cet auteur qui présente le texte de Sainte Perpétue. Les exemples de foi de nos pères qui attestent la grâce de Dieu puis édifient les hommes et les femmes ont soigneusement été consignés par écrit. Leur lecture, qui évoque ces hauts faits, rend gloire à Dieu et réconforte les hommes et les femmes. Pourquoi ne pas noter également les exemples nouveaux, on dit bien nouveaux, comme quoi pendant près de deux siècles avant, il y en a eu beaucoup d'exemples. Pourquoi ne pas noter également les exemples nouveaux qui présentent les mêmes avantages? À leur tour, ces faits nouveaux deviendront anciens. Et combien ils sont très anciens pour nous aujourd'hui. Et le texte continue en disant « Ils seront nécessaires à la postérité. » Même si aujourd'hui on leur attribue une moindre autorité à cause de l'engouement pour l'Antiquité. Qu'ils ouvrent donc les yeux, ceux qui apprécient, d'après le nombre des générations, la puissance toujours identique d'un même Esprit Saint. Bien mieux. Il faudrait faire plus grand cas des prodiges récents, puisqu'ils sont les derniers en date, et que la grâce doit s'épancher toujours de plus en plus dans les derniers temps du monde. Dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Oui, je répandrai mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes. Les jeunes gens auront des visions et les vieillards des songes. Et l'auteur continue en disant, voilà pourquoi nous acceptons les prophéties et les visions nouvelles que Dieu nous a promises. Nous les honorons comme les autres manifestations de l'Esprit qui servent l'Église. Ce même Esprit a été envoyé à l'Église pour dispenser tous les dons, dans la mesure où le Seigneur les distribue à chacun de nous. Il est donc nécessaire de mettre par écrit toutes ces merveilles et de les faire lire pour la gloire de Dieu. De la sorte, nous ne serons ni pusillanimes ni méfiants à l'égard de la grâce. Nous n'irons pas nous imaginer que seuls les anciens avaient reçu la grâce divine, soit dans les martyrs, soit dans les révélations. Dieu accomplit toujours ses promesses pour servir de témoignage aux incroyants, de soutien aux fidèles. C'est pourquoi, chers frères, chères sœurs, nous vous annonçons ce que nous avons entendu, ce que nous avons touché. Ainsi, vous qui avez assisté à ces événements, vous vous souviendrez de la gloire du Seigneur. Et vous qui les apprenez en lisant cet écrit, nous du XXe siècle, nous les apprenons en lisant cet écrit, vous entrerez en communion avec les saints martyrs et avec eux avec le Seigneur Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et l'honneur dans les siècles des siècles. Amen. Alors là, il raconte. On arrêta des jeunes gens des catéchumènes, Revocatus et Félicité, sa compagne d'esclavage, Saturninus et Secundulus. Avec eux se trouvait Vibia Perpétue. Elle était de noble naissance, elle avait reçu une éducation brillante et avait fait un beau mariage. Perpétue avait encore son père et sa mère, deux frères, dont l'un était également catéchumène, et un enfant encore à la mamelle, un garçon. Elle avait environ 22 ans. Elle a raconté elle-même toute l'histoire de son martyr. Et la voici écrite de sa main et d'après ses impressions. C'était rare, les femmes qui savaient écrire. Voici le récit de Perpétue. Nous étions encore avec nos gardes, que déjà mon père m'entreprenait. Dans sa tendresse, il s'évertuait à ébranler ma foi. Père, lui dis-je, vois-tu le vase qui traîne par terre, cette cruche, ou bien cette autre chose?
Ben, je le vois, dit mon père.
Peut-on lui donner un autre nom que celui qu'il porte, lui dis-je?
Ben non, répondit-il.
Eh bien, moi de même, je ne puis me donner un autre nom que mon vrai nom. Je suis chrétienne. Mon père fut exaspéré par cette parole. Il se jeta sur moi pour m'arracher les yeux. Il se contenta de me maltraiter et s'en alla vaincu par les arguments du démon. Pendant plusieurs jours, je ne revis plus mon père. J'en remerciai Dieu. Cette absence me fut un soulagement. C'est précisément pendant ce court laps de temps que nous fûmes baptisés. Enfin baptisés. L'Esprit-Saint m'inspira de ne rien demander à l'eau sainte, sinon la force de résister dans ma chair. Et quelques jours plus tard, nous fûmes transférés dans la prison de Carthage. J'en fus épouvanté. Jamais je ne m'étais trouvé dans de pareilles ténèbres. Un jour douloureux. La chaleur qui se dégageait de la foule des détenus était suffocante. Les soldats cherchaient à nous extorquer notre argent. Enfin, j'étais dévoré d'inquiétude à cause de mon enfant. Alors, Tertius et Pomponius, les diacres dévoués qui prenaient soin de nous, ont obtenu à prix d'argent qu'on nous autorise à nous reposer pendant quelques heures dans un endroit plus agréable de la prison. Et à ce moment-là, tous les détenus quittaient le cachot et faisaient ce qu'ils voulaient. Moi, j'allaitais mon enfant qui mourait de faim. Comme j'étais inquiète de son sort, j'en parlais à ma mère. Puis, je réconfortais mon frère en lui recommandant mon fils. Je souffrais beaucoup de voir les miens souffrir à cause de moi, et durant de longs jours, ces inquiétudes me torturaient. Je finis par obtenir que mon enfant demeure avec moi en prison. Aussitôt, il reprit des forces et je fus délivré de la peine et des soucis qu'il m'avait causés. D'un coup, la prison se changea pour moi en palais, et je m'y trouvais mieux que partout ailleurs. Un jour, mon frère me dit, « Madame, ma sœur, te voilà maintenant en crédit auprès de Dieu. Tu es en mesure de lui demander de te manifester par une vision ce qui nous attend, le martyr ou la mise en liberté. » Moi, je savais bien que j'avais des entretiens avec le Seigneur dont j'avais reçu tant de bienfaits, et plein de confiance, je l'ai promis à mon frère, en ajoutant, « Demain, je te donnerai la réponse. » Et je me suis mise en prière. Perpétue raconte donc qu'elle s'est mise en prière à la demande de son frère. Et elle ajoute, « Voici ma vision. » Et c'est très beau, ça touche presque au surréalisme, mais ce sont des visions comme on en trouve dans la Bible et dans des grands récits des vies de saints. Donc, Perpétue raconte, « Je vis une échelle d'airain, d'une hauteur si étonnante qu'elle s'élevait jusqu'au ciel. Elle était si étroite que l'on pouvait y monter seulement un à un. Au montant de l'échelle étaient fixés toutes sortes d'instruments de fer, des glaives, des lances, des crocs, des coutelas. Celui qui serait monté sans précaution, sans regarder en haut, en aurait été déchiqueté, laissant des lambeaux de sa chair accrochés à ses pointes. Au pied de l'échelle était couché un dragon, d'une taille énorme. Il tendait des pièges à ceux qui voulaient monter et leur faisait peur pour les en empêcher. Je vous rappelle, c'est une vision, un rêve. Saturus monta le premier. Il s'était livré lui-même, après notre arrestation, à cause de nous. C'est lui qui nous avait convertis. Il était absent quand nous avions été arrêtés. Parvenu au sommet de l'échelle, il se retourna et me dit, « Perpétue, je t'attends, mais prends garde que le dragon ne te morde. » Je répondis, « Par le nom de Jésus-Christ, il ne me fera aucun mal. » De dessous l'échelle, le dragon dressa lentement la tête, comme s'il avait peur de moi. En prenant mon élan, comme pour gravir le premier échelon, je lui écrasai la tête d'un coup de talon. Puis je montai, Je vis alors un immense jardin. Au milieu se tenait un homme chenu, de haute taille. Habillé comme un berger, il était occupé à traire des brebis. Autour de lui se tenaient des gens vêtus de blanc. Il y en avait des milliers. Il leva la tête, m'aperçut et me dit « Tu es la bienvenue, mon enfant. » Il m'appela et me donna comme une bouchée de fromage qu'il préparait. Je la reçus les mains jointes. Je la mangeai et tous les assistants disaient « Amen ». Au bruit des voix, je me suis réveillé, savourant je ne sais quelle douceur. C'est la fin de la vision. Je rapportai aussitôt cette vision à mon frère. Et nous avons compris que c'était le martyr qui nous attendait. Dès lors, nous n'avons plus eu aucun espoir dans les choses d'ici-bas. Quelques jours plus tard, le bruit a couru que nous allions être interrogés. Mon père est arrivé en hâte de Tuburbo, brisé de douleur. Il est monté près de moi pour m'ébranler. « Aie pitié, ma fille, de mes cheveux blancs. Aie pitié de ton père. Si je suis encore digne que tu m'appelles ton père, je t'ai élevé de mes mains jusqu'à la fleur de l'âge, je t'ai préféré à tous tes frères. Ne me livre pas à la risée des hommes. Songe à tes frères, songe à ta mère et à ta tante. Songe à ton enfant qui ne pourra pas vivre sans toi. Reviens sur ta décision et ne ruine pas ta famille tout entière. » Quand personne parmi nous ne pourra plus parler en homme libre si tu es condamné. » Et voilà ce que disait mon père par affection. Ce faisant, il me couvrait les mains de baisers, se jetait à mes pieds. Et dans ses larmes, il ne me disait plus « ma fille », mais « madame ». Je souffrais de voir mon père en cet état. Seul de toute ma famille, il ne se réjouirait pas de ma passion. C'est-à-dire de mèche, une passion comme celle du Christ. Je le réconfortais en lui disant, « Il n'arrivera sur cette estrade du tribunal que ce que Dieu voudra. Sache bien que notre sort ne dépend pas de nous, mais de Dieu. » Et alors il s'est retiré, désolé. Un autre jour, en plein repas, on nous entraîne soudain au tribunal et nous arrivons au forum. La nouvelle s'en répand rapidement dans les quartiers voisins. Alors il y a eu bientôt foule, et nous montons sur l'estrade. On interroge les autres, qui confessent leur foi. Mon tour arrive, quand brusquement apparaît mon père, portant mon fils dans ses bras. Il me tire de ma place et me dit, « Aie donc pitié de l'enfant !» Le procurateur Hilarianus, qui remplaçait Minucius Timinianus, le proconsul défunt, et avait le droit du glaive, à son tour a insisté. « Prends donc en pitié les cheveux blancs de ton père, Perpétue. Le tendre âge de ton enfant aussi. Sacrifie donc pour le salut des empereurs. » Et moi, je réponds, « Je ne sacrifierai pas. » Hilarianus lui dit, « Es-tu chrétienne ?» Et je lui réponds, « Je suis chrétienne. » Mon père restait à mes côtés pour me fléchir. Hilarianus a donné un ordre. On a chassé mon père et on l'a frappé d'un coup de verge. Ce coup m'a atteinte. Comme si c'était moi qu'on eût frappé. Je souffrais de sa vieillesse et de sa souffrance. Alors le juge a prononcé la sentence. Nous étions tous condamnés aux bêtes. Et nous sommes partis tout heureux vers la prison. Comme mon enfant prenait encore le sein, il restait habituellement avec moi en prison. J'ai envoyé sur le champ le diacre Pomponius à mon père pour réclamer l'enfant, mais mon père a refusé de le donner. Depuis ce jour, mon fils n'a plus demandé le sein, et je n'ai plus été incommodé par le lait. Ainsi ont cessé les inquiétudes au sujet de mon enfant et les douleurs de mes seins. Peu de jours après, nous étions tous en prière quand soudain un nom m'a échappé, celui de Dinocrate. J'étais stupéfait de n'avoir jamais pensé à lui jusqu'alors, et j'étais tout triste
en songeant à ses malheurs, j'ai compris que je pouvais maintenant prier pour lui, et que c'était mon devoir, et je me suis mise en oraison. J'ai adressé au Seigneur pour lui en gémissant des prières instantes. Et la nuit suivante, j'ai eu une autre vision. J'ai vu Dinocrate sortant d'un lieu ténébreux où il avait beaucoup de monde. Il avait très chaud et il mourait de soif. Sa tenue était négligée, son teint pâle. Il portait sur son visage la plaie qu'il avait en mourant. Et ce Dinocrate était mon frère selon la chair. Il avait 7 ans quand il est mort misérablement d'un cancer au visage. Sa mort avait fait horreur à tous. C'était pour lui que j'avais prié. De lui à moi, maintenant qu'il était là, il y avait une grande distance. Nous n'aurions pas pu nous rejoindre. À l'endroit où se tenait Dinocrate, il y avait une piscine pleine d'eau, avec une margelle plus haute que la taille de l'enfant. Dinocrate se haussait en vain pour boire. Je m'affligeais en voyant cette piscine pleine d'eau dont la margelle était trop haute pour que l'enfant puisse y boire. C'est une vision toujours, je vous rappelle, c'est un rêve. Hein? Et là-dessus, je me réveillais. Je comprenais que mon frère souffrait, mais j'étais convaincu que je pouvais le soulager dans ses souffrances. Alors j'ai prié pour lui tous les jours jusqu'au moment où nous avons été transférés dans la prison militaire. Nous devions en effet combattre dans les jeux militaires donnés pour l'anniversaire de César Gétin, l'empereur. J'ai continué à prier pour mon frère jour et nuit, en demandant sa grâce dans des gémissements et des larmes. Un jour, que nous étions dans les fers, enchaînés, quoi, j'eus une nouvelle vision, troisième. J'ai revu l'endroit que j'avais vu la première fois. Dinocrate, mon frère, cette fois, était guéri, bien habillé et joyeux. Il n'avait plus de cancer. Au lieu de la plaie, une cicatrice. La margelle de la piscine était plus basse, elle arrivait à la ceinture de l'enfant et celui-ci puisait l'eau sans effort. Sur la margelle, il y avait une coupe d'or pleine d'eau. Dinocrate s'en est approché et s'est mis à boire, mais la coupe restait toujours pleine. Quand il a été désaltéré, il s'est approché de la piscine pour jouer avec l'eau, comme le font les enfants. Il s'amusait beaucoup. Là-dessus, je me suis réveillé. Et j'ai compris qu'on lui avait remis sa peine. Peu de jours après, en somme, il était libéré du purgatoire, vous avez compris. Hein? Peu de jours après, Pudence, un adjudant préposé à la garde de la prison, est devenu fort bienveillant à notre égard. Il comprenait que la force de Dieu était en nous. Il laissait entrer beaucoup de visiteurs, ce qui nous a permis de nous encourager mutuellement. Cependant, le jour des jeux approchait. Alors mon père est venu me voir. Ah, le chagrin le minait. Il s'est mis à s'arracher la barbe, à se rouler par terre, à se prosterner sur sa face. Il maudissait ses années. Il trouvait des mots qui auraient pu ébranler n'importe qui. Mais moi, je pleurais sur les infortunes de sa vieillesse. Je continue donc son récit. Elle dit, aujourd'hui, veille de la date fixée pour notre combat. C'est-à-dire notre martyr, quoi. Je viens d'avoir la vision suivante, une autre vision. Le diacre Pomponius était venu à la porte de la prison et frappait avec violence. Je suis sorti pour lui ouvrir et il portait une tunique blanche, sans ceinture, ainsi que des chaussures gauloises à multiples cordons. Il me dit, « Perpétue, nous t'attendons, viens. » Il m'a pris la main, et nous voilà engagés dans un sentier escarpé et sinueux. Nous sommes arrivés, non sans peine, à l'amphithéâtre. Nous étions bien essoufflés. Il m'a conduit au milieu de l'arène. Il m'a dit, « N'aie pas peur, je suis avec toi. Je t'aiderai. » Il s'en alla. Je vis alors une grande foule qui semblait frappée de stupeur. Je savais que j'étais condamné aux fauves, aux bêtes fauves. Aussi, étais-je fort surprise qu'on
n'en voit aucune contre moi. Alors s'est avancé contre moi un Égyptien repoussant. Avec ses suppôts, là, les gens qui l'entouraient, il s'est apprêté à me combattre. Au même moment, de beaux jeunes gens se sont rangés à mes côtés. C'étaient mes aides et mes partisans. On m'a déshabillé, je suis devenu un homme. D'une vision, je vous dis, c'est un rêve. Mes partisans se sont mis à me frictionner avec de l'huile, comme cela se fait pour la lutte. Je voyais en face l'Égyptien se rouler dans le sable. Alors, s'est avancé un homme d'une taille extraordinaire. Il était si grand qu'il dépassait le faîte de l'amphithéâtre. Il portait une tunique flottante couleur de pourpre sur la poitrine, entre deux bandes. Ses chaussures gauloises étaient ornées d'or et d'argent. Et puis, il tenait dans sa main une verge, un fouet, comme un chef de gladiateur, et un rameau vert avec des pommes d'or. Il a demandé le silence. Il a dit, si l'Égyptien est vainqueur de cette femme, il la frappera du glaive. Si elle est victorieuse, elle recevra ce rameau. Et il se retira. Nous nous affrontons, nous échangeons des coups de poing. L'Égyptien essaie de me saisir les pieds. Je lui martèle le visage à coups de talon. Soudain, je suis soulevé en l'air et je peux le frapper sans fouler le sol. Mais comme le résultat final se fait attendre, je joins les mains, en entrelaçant les doigts. Je saisis la tête de l'Égyptien, il tombe par terre et d'un coup de talon, je lui écrase la tête. La foule m'acclame. Mes partisans chantent victoire. Je m'approche du chef des combats et je reçois le rameau. Il m'embrasse et il me dit, « Ma fille, la paix soit avec toi. » Alors, fier de mon triomphe, je me dirige vers la porte des vivants. Une porte de la ville de Carthage. Un Carthage est tout près de Tunis, en Tunisie, quoi. À ce moment, je me suis réveillé de ce songe. Et j'ai compris que je combattrais non pas contre les fauves, mais contre le diable. Et j'étais sûr de la victoire. Voilà ce que j'ai relaté jusqu'à la veille des Jeux. Si quelqu'un veut raconter le combat lui-même, qu'il le fasse. Et c'est la fin du récit de Perpétue. On a maintenant le récit de Saturus. Le bienheureux Saturus a eu lui aussi une vision. Et la voici telle qu'il l'a racontée lui-même par écrit. C'est une belle journée aujourd'hui. On vit dans des contes et des visions. Ça fait changement avec toutes les autres journées, hein? Alors voici donc la vision de Saturus. Notre martyre était accompli et nous avions quitté notre corps. Quatre anges nous ont apportés vers l'Orient, mais leurs mains ne nous touchaient pas. Nous montions, non pas couchés sur le dos et la face tournée vers le ciel, mais comme des voyageurs qui gravissent une pente douce. Quand nous avons dépassé les premières sphères du monde, nous avons vu une lumière éclatante, et j'ai dit alors à Perpétue qui se tenait à mes côtés, « Voici ce que nous a promis le Seigneur, et nous y sommes parvenus. » Alors, toujours portés par les quatre anges, nous avons atteint une immense esplanade qui ressemblait à un jardin avec des lauriers roses et toutes sortes de fleurs. Les arbres avaient la taille des cyprès, et leurs feuilles chantaient sans cesse. Dans ce jardin se trouvaient quatre anges plus éblouissants que tous les autres, et quand ils nous ont aperçus, ils nous ont accueillis avec de grandes marques de déférence, et ils ont dit aux autres anges avec admiration, « Les voici! Les voici !» Et intimidés, les quatre anges qui nous portaient nous ont déposés sur le sol. Alors nous cheminons alors à travers un stade, par une large avenue, et nous rencontrons Jucundus, Saturninus et Artaxius, qui avaient été brûlés vifs dans la même persécution. Quintus, qui mourut dans la prison, était également présent. Quand nous demandons des nouvelles des autres, les anges nous disent, « Venez d'abord, entrez et allez saluer le Seigneur. » Nous arrivons près d'un palais dont les murs semblent construits de lumière. Sur le seuil se tiennent quatre anges. À notre entrée, ils nous revêtent de robes blanches. Nous pénétrons et nous entendons un cœur qui redit sans cesse, « Saint, saint, saint !» Dans la salle est assis un homme vêtu de blanc.
Son visage est jeune et ses cheveux éclatants comme neige. On ne voit pas ses pieds. À ses côtés se tiennent quatre vieillards. Derrière eux, beaucoup d'autres vieillards debout. Nous nous avançons émerveillés et nous nous arrêtons devant le trône. Quatre anges nous soulèvent et nous embrassons le Seigneur qui nous caresse de la main. Puis les autres vieillards nous disent « Debout ». Nous obéissons et nous échangeons le baiser de paix. Enfin, les vieillards nous disent « Allez vous distraire ». Et je dis à Perpétue « Tu possèdes ce que tu désires ». Elle me répond « Oui, Dieu merci, j'étais gaie de mon vivant, je le serai davantage ici ». En sortant du palais, nous trouvons devant la porte à droite l'évêque Optate. À gauche, le prêtre et docteur Aspasius. Il semble en désaccord et triste. Il se jette à nos pieds en disant « Rétablissez la paix entre nous. Vous êtes partis sur notre brouille. » Nous leur répondons « N'es-tu pas notre père et toi un prêtre? Comment pouvez-vous vous jeter ainsi à nos pieds? » Et tout émus, nous les embrassons. Perpétue se met à parler avec eux en grec et nous les amenons dans le jardin sous un laurier rose. Nous parlions avec eux quand sont arrivés des anges. Laissez les martyrs se reposer. C'est ce que les anges nous ont dit. Si vous avez des difficultés entre vous, pardonnez-vous mutuellement. Ce qui n'a pas laissé de les troubler. En s'adressant à Optate, ils ont ajouté « Corrige tes fidèles ». Quand ils se réunissent autour de toi, on dirait qu'ils reviennent du cirque. Ils se disputent comme des factieux. Et il nous a semblé que les anges voulaient leur fermer la porte au nez. Nous avons reconnu beaucoup de frères, des martyrs comme nous. Tous nous avions pour nourriture un parfum ineffable qui nous rassasiait. Alors tout joyeux, je me réveillais. Et voici le récit maintenant du rédacteur anonyme. Voilà les visions les plus remarquables des bienheureux martyrs Saturus et Perpétue, tels qu'ils les ont rédigés eux-mêmes. Quant à Secundus, Dieu, par une mort prématurée, l'avait rappelé à lui pendant qu'il était en prison. La grâce divine l'avait soustrait à la dent des fauves. Mais si son âme n'a pas connu de glaive, son corps, du moins, en avait senti la menace. Félicité, elle aussi, vous savez, c'est la fête de Sainte Félicité et Sainte Perpétue aujourd'hui. Donc, Félicité, elle aussi, obtint du Seigneur une grande grâce. Elle était enceinte de 8 mois au moment de son arrestation. À l'approche du jour des Jeux, elle se désolait à la pensée qu'on ajournerait son martyre à cause de son état, parce que la loi interdisait d'exécuter des femmes enceintes. Elle craignait aussi qu'elle n'eût à verser plus tard son sang pur et sans tache dans une fournée de criminels. Ses compagnons de martyr étaient profondément tristes à la pensée de laisser seule une si bonne compagne, une amie, qui avec eux marchait vers une même espérance. Aussi, 3 jours avant les Jeux, une façon de parler, c'est tout des jeux que ces jeux de l'ancienne Rome ou de l'ancien empire romain. Aussi, 3 jours avant les Jeux, tous ensemble, dans une supplication commune, nous sommes adressés au Seigneur. Nous avons adressé nos prières. À peine avions-nous terminé nos demandes, que les douleurs ont saisi Félicité. En raison des difficultés inhérentes à un accouchement au 8e mois, elle souffrait beaucoup et elle gémissait. Alors un des geôliers lui a dit « Si déjà tu gémis ainsi maintenant, mais qu'est-ce que tu vas faire une fois livrée aux fauves que tu as bravé en refusant de sacrifier ?» Et Félicité lui a répondu « Maintenant, c'est moi qui souffre ce que je souffre, mais là-bas, un autre sera en moi qui souffrira pour moi, parce que c'est pour lui que je souffrirai. » C'est une parole extraordinaire prononcée il y a 1800 ans presque. Et je la répète parce qu'elle est très très belle pour nous tous qui souffrons, et particulièrement les malades et les gens qui souffrent beaucoup. Il y en a tellement. Hein? Elle dit, « Un autre sera en moi qui souffrira pour moi, parce que c'est pour lui que je souffrirai. » Alors Félicité a mis au monde une fille qu'une chrétienne a adoptée comme son enfant. L'Esprit-Saint nous a permis, et sa permission a été un ordre, de consigner par écrit le récit du combat dans les Jeux. Malgré notre indignité, nous complétons l'histoire d'un martyr si glorieux. Nous pensons ainsi exécuter le désir et même la mission que la très sainte Perpétue a daigné nous confier. Rapportons d'abord un trait de sa fermeté et de sa grandeur d'âme. Le tribun traitait assez durement les détenus. Alors abusé par les avertissements de personnes sans cervelle, il redoutait que les prisonniers n'arrivent à s'échapper par des incantations magiques, quoi. Et Perpétue lui a lancé en pleine figure, « Pourquoi refuses-tu les adoucissements de si nobles condamnés qui doivent combattre pour l'anniversaire de César? N'y va-t-il pas de ta réputation d'exhiber dans l'arène des prisonniers bien gras? » Et le tribun a été décontenancé, il a rougi. Il a donné l'ordre de traiter les prisonniers plus humainement. Si bien que les frères de Perpétue et tous les autres visiteurs ont eu la possibilité d'entrer dans la prison et d'apporter leur réconfort, d'autant que le chef de la prison venait de se convertir au catholicisme. La veille des Jeux a eu lieu le dernier repas des condamnés, qu'on appelle le repas libre. Les martyrs, autant qu'ils le pouvaient, ont changé ce repas d'orgie en agape. Ils parlaient à la foule, avec leur courage habituel, en les mettant en garde contre le jugement de Dieu. Ils proclamaient leur bonheur de donner leur vie. Ils raillaient la curiosité des badauds. Ils leur disaient, c'est Saturus qui disait, « La journée de demain ne vous suffit-elle pas pour contempler à votre aise ceux que vous détestez? Aujourd'hui, amis, demain, ennemis, fixez bien nos traits afin de nous reconnaître au jour du jugement. » Alors tous les païens se sont retirés, confus. Et à cause du courage de ces chrétiens, à cause de leur amour pour le Christ, beaucoup parmi eux se sont convertis. Le jour de la victoire s'est donc levé enfin pour ces martyrs. Les martyrs ont donc quitté la prison et se sont acheminés vers l'amphithéâtre. On aurait dit qu'ils montaient au ciel, leur visage était radieux. Je lis le texte ancien, là, si je n'invente rien. Leur visage était radieux, ils étaient beaux. Ils étaient émus, non de peur, mais de joie. C'est un texte qui date, je vous le rappelle, de 1800 ans. Perpétue marchait derrière, d'un pas tranquille, comme une grande dame du Christ, comme la petite bien-aimée de Dieu. L'éclat de son regard forçait tous les spectateurs à baisser les yeux. Félicité la suivait. Elle était toute joyeuse de son heureuse délivrance qui lui permettait d'affronter les fauves. Elle était ravie d'aller du sang au sang, de l'accoucheuse aux rétières, pour se purifier par un second baptême. Quand ils furent arrivés à la porte de la reine, on a voulu les forcer à revêtir des costumes sacrilèges, pour les hommes celui des prêtres de Saturne, et pour les femmes celui des prêtresses de Cérès. Mais Perpétue a résisté fermement jusqu'au bout. Elle a refusé avec une invincible ténacité. Elle disait, « Si nous sommes venus ici volontairement, c'est pour défendre notre liberté. » Voilà une femme solide qui se tient debout. Elle est chrétienne. C'est la journée des femmes demain. Voilà une belle parole pour toutes les femmes. Hein? « Si nous sommes venus ici volontairement, c'est pour défendre notre liberté. » Mais la liberté qu'elle défend, c'est la vraie. Pas la fausse. Elle ajoute, si nous sacrifions notre vie, c'est pour n'avoir pas à faire pareille chose. Sur ce point, nous avons passé un contrat avec vous. Elle est solide, hein? Cette sainte. Le texte continue en disant « L'injustice a dû céder devant la justice. Le tribun a consenti à les faire entrer avec leurs vêtements ordinaires. » Perpétue chantait. Déjà, elle broyait la tête de l'Égyptien. C'est une allusion à la vision de tout à l'heure. Revocatus, Saturninus et Saturus menaçaient le peuple de la colère divine. Et quand ils sont passés devant la loge d'Hilarianus, ils lui dirent par geste et par signe, « tu nous juges, mais Dieu te jugera. » Le peuple exaspéré a demandé qu'on les fasse fouetter par les chasseurs rangés en file. Et les martyrs s'en sont réjouis. Ils pouvaient ainsi partager les souffrances du Seigneur qui a été flagellé. Celui qui a dit « Demandez et vous recevrez » a accordé à chacun le genre de mort qu'il avait souhaité. Les jours précédents, quand ils en parlaient entre eux, Saturninus avait déclaré qu'il voulait être exposé à toutes les bêtes pour remporter une couronne plus glorieuse. Or, dès l'ouverture du spectacle, Revocatus et lui ont été attaqués par un léopard, puis sur l'estrade, ils ont été déchirés par un ours. Saturus, lui, avait la plus grande horreur des ours. Il comptait bien être tué d'un coup de croc par un léopard. Or, on a lancé d'abord sur lui un sanglier. Mais le chasseur qui avait déchaîné la bête sur le martyr a été éventré par la bête et est mort peu de jours après les jeux. Saturus a été seulement traîné sur le sable. On l'a attaché ensuite sur le pont de l'estrade pour être livré à un ours, mais l'ours refusa de quitter sa cage. Une seconde fois, Saturus a été ramené sans blessure. Pour les jeunes femmes, on avait réservé une vache furieuse, une vache enragée, comme on dit. Le diable, dit le texte ici, qui date toujours, je vous le dis, de près de 2000 ans, avait inspiré aux bourreaux de se procurer cet animal inaccoutumé dans les jeux, comme pour mieux insulter leur sexe. On les enferma, toutes nues, dans des filets, et on les produisit ainsi dans l'arène, et le public en frémit de honte, en voyant que l'une d'elles était toute frêle, et que l'autre relevait à peine d'avoir un enfant, elle relevait de ses couches, et perdait le lait de ses seins. Les ayant fait revenir, on les revêtit de tuniques sans ceinture. Perpétue, vous savez que le Christ a été crucifié nu, complètement nu. On n'y pense pas suffisamment à l'abomination de ce martyr de Jésus. Eh bien, elle aussi, nue, comme ça, exposée à tout le monde. Mais finalement, on leur donne des tuniques. Et Perpétue, la première, fut lancée en l'air. Elle retomba sur les reins. Dès qu'elle put s'asseoir, elle s'aperçut que sa robe était déchirée sur le côté. Aussitôt, elle a tiré pour cacher ses jambes, plus attentive à la pudeur qu'à la douleur. Et ensuite, elle a cherché une épingle, puis elle a rattaché ses cheveux qui s'étaient dénoués, car une martyre ne peut pas mourir les cheveux épars, pour ne pas avoir l'air d'être en deuil le jour de sa gloire. Puis, elle s'est relevée, elle a aperçu Félicité qui semblait brisée, elle s'est approchée d'elle, elle lui a tendu la main, elle l'a aidée à se relever. Et les voyant toutes deux debout, la cruauté inhumaine de la foule a été vaincue. On les a fait sortir par la porte des vivants, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Là, Perpétue a été accueillie par un catéchumène appelé Rusticus, qui lui était fort attaché. Elle a semblé se réveiller d'un profond sommeil, tant elle avait duré l'extase de l'Esprit-Saint. Elle a regardé autour d'elle, et tous les assistants étaient stupéfaits quand elle a demandé « Quand serons-nous donc exposés à cette vache ?» Comme on lui disait que la chose avait déjà eu lieu, elle ne voulut pas le croire. Elle s'est rendue à l'évidence qu'en voyant sur sa robe et sur son corps les traces du supplice. Ensuite, elle a appelé son frère et le catéchumène et elle leur dit « demeurez ferme dans la foi et aimez-vous les uns les autres, que nos souffrances ne soient pas pour vous un sujet de scandale. » Et pendant ce temps, Saturus encourageait le soldat Pudence à une autre porte. « En fin de compte, lui disait-il, comme je l'espérais et le prédisais, je n'ai été touché jusqu'ici par aucune bête. Crois maintenant de toute ton âme. Le moment est venu où je vais m'avancer dans l'arène. D'un seul coup de dent, un léopard va me blesser à mort. » C'était presque la fin du spectacle. On lâcha contre Saturus un léopard et d'un coup de croc, le baigna dans son sang. La foule lui cria, comme pour témoigner du second baptême, « Le voilà bien lavé, le voilà sauvé, ha, ha, ha !» Et assurément, il était bien sauvé, celui qui était ainsi lavé dans son sang. Saturus dit alors au soldat Pudence, « Adieu, Souviens-toi de ma foi. Que ceci ne t'ébranle pas, mais te fortifie. » En même temps, il lui demanda l'anneau qu'il portait au doigt, il le trempa dans le sang de sa blessure, et le lui rendit comme pour lui laisser en héritage un souvenir et un gage de son martyr, puis il s'évanouit. On l'étendit à terre pour l'égorger avec les autres dans la salle du spoliaire. Mais le peuple a demandé qu'on ramène les blessés au milieu de l'arène pour savourer des yeux le spectacle du glaive pénétrant dans le corps vivant et rendre ainsi les regards complices de l'homicide. Tout ça me fait penser à ces combats de lutte abominables qu'on voit à la télévision. Comme le monde ne change pas beaucoup. Les martyrs se relevèrent d'eux-mêmes et se portèrent où le désirait la foule. Ils se donnèrent d'abord le baiser de paix pour consommer le martyr selon le rite de la foi. Et tous demeurèrent immobiles et ont reçu en silence le coup mortel. Saturus, qui dans la vision montait le premier, fut le premier à rendre l'âme. Car il devait attendre Perpétue, et Perpétue eut le temps de savourer la douleur. Frappée entre les côtes, elle a poussé un grand cri. Puis elle saisit elle-même la main tremblante du gladiateur novice et a dirigé le glaive sur sa gorge. Sans doute une telle femme ne pouvait mourir autrement que par son propre gré, tant le démon la redoutait. Et le texte termine en disant, « Ô très vaillant et bienheureux martyr, vous avez été choisi et élu pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui le magnifie l'honore et l'adore doit lire ces nouveaux exemples pour l'édification de l'Église, parce qu'ils ne sont pas moins beaux que ceux d'autrefois. Ils rendent témoignage que l'unique et même Esprit agit toujours, ainsi que le Dieu Tout-Puissant et son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, à qui appartiennent la gloire et la puissance souveraine dans les siècles des siècles. Amen. »